السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers dans l'islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la chance d'avoir le iman. Ce iman, c'est la clé du succès, c'est la seule chose qui nous permet d'avoir le falah, le succès éternel de l'akhirat et la tranquillité du cœur dans ce dunya. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a tellement favorisé la communauté, la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres umma. Par rapport au fait surtout que notre espérance de vie est très courte. Comparée aux autres communautés qui étaient venues avant nous, notre espérance de vie ne dépassera pas 70, 80, voire 90 années, sauf à des exceptions près. Et pour combler ce déficit en termes d'années, Allah Ta'ala fait en sorte de nous accorder des moments dans l'année. Ça peut être des nuits, ça peut être des journées, ça peut être un mois tout entier, ça peut être un décade, c'est-à-dire 10 jours, dans lesquels Allah Azza wa Jal nous accorde certaines vertus que nous ne pouvons pas retrouver dans les autres moments de l'année. Et la nuit que nous sommes en train de vivre ensemble, cette nuit de 15 Sha'ban, fait partie des moments importants du calendrier islamique. Il y a, d'abord, je m'incline avec beaucoup de respect par rapport au stade qui est là, et c'est certainement ce genre de personnes qui devaient être à ma place, et c'est grâce aux efforts que ces anciens qui ont fait qu'Allah donne la possibilité maintenant de nous adresser à vous, qu'Allah les récompense et augmente leur grâce. C'est ça qu'on va faire. Donc, on est en train de dire que c'est grâce, voilà, on parlait de la nuit du 15 Sha'ban, voilà, et on disait que le 15 Sha'ban fait partie des moments importants du calendrier islamique. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés sur la nuit du 15 Sha'ban, mais on ne va pas rentrer dans les détails concernant les chaînes de narration, le temps utilisé des hadiths, parce que ce sont des choses assez complexes qu'on préfère laisser aux mutakhassisin, aux gens plus spécialisés dans la connaissance du hadith. Il faut avant tout savoir qu'il y a peu de rapports entre la nuit du 15 Sha'ban et la nuit du Laylat al-Qadr. C'est souvent l'idée reçue que le 15 Sha'ban, il y a des décisions qui sont prises dans le ciel. Il y a pas mal de hadiths qui n'atteignent pas le degré de siha. Mais ce qu'on va vraiment retenir ce soir, c'est qu'est-ce qui est vraiment prouvé, quelles sont les véritables vertus concernant la nuit du 15 Sha'ban. Parce que cette nuit, réellement, il y a des ahadiths qui sont soit sahih, soit un degré moins hassan, sans entrer dans les détails techniques, mais qui reflètent vraiment une importance pour cette nuit du 15 Sha'ban. Dans un hadith, le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith rapporté par Abu Bakr radiallahu anhu, rapporté par Mu'ad ibn Jabal, par Abdullah ibn Amr, par Abu Huraira, par Abu Musa al-Ash'ari et Aisha radiallahu anha. Parlez d'une équipe, mashallah. Le nombre de sahaba qui rapportent ce hadith, ils disent que le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala laylat al-nisf min sha'ban fayaghfiru li kulli nafsin illa mushrikin billah wa mushahin. C'est ce hadith, le prophète alayhi wa sallam dit en ce sens que dans la nuit du 15 Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et où Allah ta'ala descend? Allah ta'ala descend comme il sied à sa grandeur et sa majesté au ciel qui est à la limite de ce dunya. Et en cette nuit du 15 Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tout être humain, à l'exception de la personne qui n'a pas iman en Allah et le mushahin. Le mushahin, le muhadithin explique, ce sont les personnes qui gardent rancune. C'est une personne qui a eu des problèmes, comme ça arrive à tout le monde. Nous ne sommes pas, malheureusement, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment il peut dire, nous ne sommes pas des malaïkas. Notre degré, heureusement, parce que notre degré sera, risque d'être supérieur aux malaïkas. Pourquoi? Parce que nous avons des faiblesses que les anges n'ont pas. Le désir d'accomplir les péchés. Les anges, ils ne savent pas c'est quoi un péché. Et par rapport au fait que nous avons ce tamanna, ce penchant vers le haram, et que nous contrôlons ce penchant vers le haram pour Allah, Allah Ta'ala peut augmenter le degré d'un musulman bien au-dessus du degré d'un ange. L'ange qui ne fait qu'obéir à Allah et dans son, on pourrait parler comme ça, en guillemets, dans son disque dur, l'ange ne sait pas c'est quoi péché. L'ange, il ne sait pas c'est quoi désobéir à Allah. Alors que nous, on sait très bien le faire. On a beaucoup de masqués, on a beaucoup de... Les philosophes disent nous appétons, c'est-à-dire nous avons une envie d'accomplir les péchés, nous avons des passions, des instincts, mais le fait de contrôler ces instincts, ces envies pour Allah, cela fait que notre grâce, selon l'imam Ibn Izz al-Hanafi, dit que le degré du musulman qui se contrôle pour Allah peut dépasser par cela le degré de l'ange, des malaïkas. Donc pour revenir... Dans cette nuit, donc, Allah Ta'ala pardonne à tout le monde, sauf celui qui n'a pas iman en Allah, et les personnes qui gardent rancune. Comme on le disait, ça arrive à n'importe qui d'avoir une altercation, d'avoir des différences, soit avec notre propre frère, soit avec un frère musulman, avec n'importe quelle personne, mais celui qui garde rancune, cette personne sera privée du maghfirat d'Allah le jour de Qiyamah. C'est qu'est-ce qu'il a fait. Deuxième hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, qui se trouve donc dans le recueil. C'est à peu près le même début à la fin du Fayyarfiru li akhtari min adadi sha'ri ghanami kalb. Et ça, c'est un exemple, c'est une métaphore que l'Imam Sassan utilise, qu'on a certainement déjà entendu maintes fois, et véritablement, lorsque l'Imam Sassan dit qu'Allah Ta'ala lui a accordé Jawami al-Kalim, des paroles simples mais concrètes, ben on le voit à travers ce genre d'exemple. L'Imam Sassan utilise la métaphore la plus puissante qu'il puisse y avoir pour montrer comment Allah pardonne en cette nuit. C'est-à-dire Allah, hadith, il dit, Allah Ta'ala pardonne à autant de personnes qu'il y a de poils sur le dos des animaux du cheptel de Banu Kalb. Banu Kalb, c'était une tribu arabe, donc en Arabie, et c'est la tribu qui était reconnue pour avoir le plus grand nombre de têtes, le plus grand nombre d'animaux, que ce soit gabri, mouton ou autre chose. Et Allah Ta'ala utilise cet exemple, autant de poils qu'il y a, ce qui est inconcevable, on ne peut pas compter, autant de poils qu'il y a sur le dos des montures ou des animaux de la tribu de Banu Kalb, Allah Ta'ala pardonne à autant de personnes en cette nuit du 15 Sha'ban. Et là, on va essayer d'attirer notre attention dans les 40 minutes que nous disposons, Inch'Allah, c'est comprendre pourquoi un musulman ne peut se permettre de laisser passer ce genre d'occasion. Pourquoi on ne peut pas laisser cette nuit de 15 Sha'ban passer comme une nuit ordinaire? Tellement le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala descend, il suffit de, j'allais dire, lever le petit doigt. Dites plutôt, il suffit de lever les mains pour qu'Allah Ta'ala pardonne. Allah Azza wa Jalla n'attend qu'un effort de la part du musulman qui s'orientera vers le Qibla, demandera pardon à Allah, et il a la garantie d'avoir le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Car Allah, dans toute sa clémence, dans sa beauté, Allah Ta'ala descend spécialement au ciel du dunya pour accorder ce maqfira. On ne va pas demander à Allah, c'est Allah qui vient pour donner, il suffit que des mains se lèvent pour qu'Allah Ta'ala accorde le maqfira de manière générale, sans limite, et Allah Ta'ala, lorsqu'il veut donner, Allah ne compte pas. Parce que le trésor d'Allah, nous savons, est inépuisable. Alors mes chers frères, on va essayer d'attirer notre attention sur l'importance de profiter de cette nuit, d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Allah ta'ala pardonne de différentes manières. Par l'accomplissement d'œuvres pieuses, de bonnes actions. Il y a d'autres moyens également. Allah ta'ala peut pardonner un musulman par les épreuves, par un accident, par une maladie, par... une longue maladie avant de mourir, une personne qui souffre un an ou deux ans avant de mourir, il ne faut pas dire que les bohèmes, Allah Ta'ala pignali, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est que lorsqu'Allah Ta'ala décide d'atteindre un musulman, c'est uniquement dans le but de le purifier. Allah Ta'ala, lorsqu'il atteint un musulman dans sa santé ou autre chose, avant la mort, c'est qu'Allah Ta'ala sait que cette personne a hisab à rendre. Cette personne a des comptes à rendre. Et Allah Ta'ala est tellement clément qu'Allah Ta'ala préfère que la personne paie sa faute de ce dunya afin que lorsqu'il va arriver devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, son casier judiciaire en Dieu-même sera vierge. Il n'y aura plus un péché inscrit. Car les malheurs, les maladies, les difficultés ont pour but, concernant les musulmans et uniquement ceux qui ont iman, ont pour but d'enlever les péchés qui sont sur le livre de compte et de purifier le musulman. Ça, c'est la clémence d'Allah. Mais je ne souhaite à personne d'avoir à passer par ces étapes pour obtenir le pardon d'Allah. Personne n'est malade ou n'est dérangé pour dire que je fais des péchés et avant de mourir, ma gueule est cancer et puis Allah va pardonner moi. Personne ne pense comme ça. L'autre solution pour obtenir le pardon d'Allah, c'est ce que les ulama ils expliquent. Les conditions du tawbatun nasuha, dans le verset Allah Ta'ala, il demande aux musulmans répentir, Allah Ta'ala utilise ce terme, le tawbatun nasuha, un repentir sincère. Et pour que le pardon soit accepté, bien sûr, il y a des conditions, mais si en plus des conditions que nous connaissons tous, nous demandons pardon à Allah dans un zaman précis, dans un temps précis, ou dans un makan précis, il y a plus de chances d'être accepté. Lorsqu'on fait un doigt à Makka ou à la Kaaba, c'est sûr que ça n'a pas la même valeur que lorsqu'on fait un doigt ailleurs. Ça, il n'y a pas le moindre doute. De la même manière, ça concerne le spatio, l'espace, le lieu. Maintenant, dans le temps, pour elle également, un doigt qui va être fait ce soir, un tawbah qui va être demandé la nuit du 15 Shaaban, comprenons bien que ce tawbah n'a strictement rien à voir avec un pardon qu'on pourra demander dans n'importe quel autre moment de l'année. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de profiter de cette nuit qui est devant nous. Et pourquoi on insiste tellement? Parce que vous savez, il y a tellement d'épreuves qui attendent chaque personne ici présente et chaque personne qui ne sont pas présents également. Il y a tellement de difficultés, de situations difficiles qui attendent chaque personne avant de mourir et surtout après la mort, que dans ces moments-là, nous allons nous rendre compte que le pardon d'Allah, c'était la chose la plus belle qu'on aurait pu avoir que ce dunya. Mais lorsqu'on arrive à ces étapes, après que le roi soit sorti, on ne peut reculer. On ne peut retourner en arrière. D'où l'importance d'attirer notre attention sur ces moments mubarak. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Kullu nafsin dha'iqatul maut ». Tellement on a entendu parler de ce verset qu'on n'a même plus la peine, on ne prend même plus la peine de traduire ce verset. Vous comprenez que chaque âme va goûter à la mort. Mais après cette mort, qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'on sera dans la tombe, il y a Munkar Nakir, il y a les questions, on sait on sait qu'il y a la résurrection, on sait qu'il y aura le procès-verbal, il y aura le livre de compte qui sera donné, etc. Et puis certains iront au paradis, certains iront en enfer. D'une manière générale, notre connaissance du mahshar, de la résurrection, se limite à ces quelques étapes, et là encore nos connaissances sont assez floues. Ce soir, Inch'Allah, dans les 30 minutes là, on va essayer de parler de notre futur. En général, on parle du passé, on parle des hadiths, on parle des vertus des actions, on parle des méfaits des péchés, mais là, on va vous raconter quelque chose que vous ne retrouverez dans aucun livre des scientifiques. Personne n'est capable de raconter le futur, à part les charlatans, personne n'est capable de raconter le futur, mais nous, on peut le faire par rapport à ce que notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et on sait que concernant la fin du monde, concernant les signes de Qiyamah, concernant la résurrection, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu de la part d'Allah une science qu'aucun prophète n'a jamais eue. Donc on va essayer de profiter de ce que notre prophète nous a enseigné. Lorsque Allah Ta'ala décidera de ressusciter l'humanité, c'est là, je le dis comme ça, que les problèmes vont commencer. C'est là que les épreuves vont être terribles pour tout être humain, musulman comme non musulman. C'est là que nous allons nous rendre compte que ce que nous avions amassé comme bien, comme fortune, les magasins, les immeubles, les bâtiments, tout ce qu'on avait comme izzat, comme honneur, ce n'est pas interdit. Mais nous allons nous rendre compte que tout cela nous a été profitable durant cette vie de dunya. Mais à partir du moment où on passe le cap, on met le pied dans ce qu'on appelle le monde du akhirat, là ça ne rentre plus en compte. Les anges, ils ne savent pas quel nom de famille vous avez. Les anges, ça ne les intéresse pas que vous êtes de Paris 15e, ou vous êtes de quel endroit, ben vous êtes du quartier. Les malaïkas, ils ne connaissent que votre iman et que vos amal salihah. Il n'y a rien d'autre qui compte le jour de Qiyamah. Que vous ayez gagné la Coupe du Monde, que vous ayez eu comme à l'Inverna une médaille d'or aux Jeux Olympiques, les anges, ça ne les intéresse pas. Moi, je suis désolé quand j'écoute la radio, j'entends ce champion olympique, il dit, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est vrai, c'est comme si il atteint le summum. Il dit qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux au monde. Mais non, mes chers frères, il est peut-être heureux, mais pas 10 minutes. Il est heureux le temps d'apprécier, d'embrasser 15 fois sa médaille. Mais après cela, l'homme le plus heureux, c'est qui? On va voir, c'est qui l'homme le plus heureux. La véritable étape où on peut mesurer qui est heureux, qui est vainqueur, et qui est véritablement le victorieux dans sa vie, parce que là, ce n'est pas une épreuve de 100 mètres, là, ça c'est une épreuve de 70 ans. On va être jugé sur 70 ou 80 années de notre vie, pas sur un 100 mètres, pas sur quelques matchs, pas sur un événement de notre vie. Le véritable mu'min qui a réussi, c'est celui qui se présente auprès du tribunal d'Allah et il est vainqueur. On va voir c'est quoi les sifat de ce mu'min. Allah Ta'ala va ressusciter l'humanité tout entière sur une terre qui est différente de la terre de ce dunya. Les hadiths disent, Allah Ta'ala dira à cette terre, Yaqulu laha, kuni fatakun. Allah Ta'ala ordonnera à cette terre d'exister. Comme Allah Ta'ala avait dit pour le dunya, kun fayakun. Allah Ta'ala dira kuni fatakun. Cette terre se mettra en place. Mais c'est une terre qui n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu de ce dunya. Allah Ta'ala dit le Coran, Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu. Le jour où la terre
sera remplacée par une autre, c'est-à-dire une autre terre différente. Dans les hadiths, il est commenté que le mada, la composition de cette terre, elle sera faite d'argent, min zidda, et sa couleur sera blanche. Hadith dit, yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati 'ala ardin bayda'in 'athra. Les gens seront ressuscités le jour de Qiyamah sur une terre de couleur blanche et rougeâtre. C'est un blanc qui tend vers le rouge. Ça, c'est les précisions qu'il y a dans les hadiths. Et ce sera une terre déserte, aplanée, comme la traite du Coran. Wa yas'alunaka 'anil jibal, fa qul yansifuha rabbi nasfa, fa yadharuha qa'an safsafa, la tara fiha 'iwajan wa la amta. Une terre où il n'y aura ni montagne, où il n'y aura ni creux. Comprenez qu'il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'arbre, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun endroit où on va trouver de l'ombre. Il n'y aura pas d'endroit où il y a de l'eau, donc personne ne pourra boire en ce jour où les gens auront atteint des degrés de soif inimaginables. La tarafiha, iwajan wa la amta, de la traduction, ni tortuosité, ni dépression. Et c'est une terre qui est gigantesque. Dans les hadiths, c'est écrit, yan fudurumul baqar. C'est une terre à perte de vue. Lorsque l'être humain regarde, cette terre n'a pas de fin, n'a pas de limite. Comprenez, une terre qui va accueillir l'humanité tout entière, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des hommes, le premier des djinns jusqu'au dernier des djinns, le premier des animaux jusqu'au dernier des animaux, et le premier des anges jusqu'au dernier des anges. C'est-à-dire tous, kullu ma siwa Allah, tout ce qui a été créé en dehors, tout ce qui est, toutes les créatures vivantes seront positionné dans cet endroit le jour du Mahsha, le jour de la résurrection. Et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il explique, wa takunu hadhihi al-ard fi, on va dire en français pour aller plus rapidement, que la grandeur, l'ampleur de cette terre du Mahsha par rapport à ce dunya, c'est exactement mithl ash-sha'ra al-bayda fi thawr al-aswad, c'est comme un poil blanc sur le dos d'un taureau de couleur noire. Ce dunya, par rapport à la terre de la résurrection, c'est comme un voile blanc sur le dos d'un taureau de couleur noire. C'est-à-dire, il n'y a aucun comparatif possible, tellement la terre du Mahshar sera quelque chose de gigantesque, et à la différence du dunya, ce sera une terre pure. Lam yusfak fiha dam, wa lam yu'mal 'alayha khati'ah, khati'ah min katir. C'est une terre où jamais quelqu'un n'a désobéi à Allah, et jamais le moindre péché n'a été accompli. C'est une terre neuve, créée uniquement pour la résurrection. Et maintenant qu'Allah Ta'ala a préparé le plateau, on pourrait dire, pour accueillir toutes les makhlouqat, maintenant Allah Azza wa Jal va ressusciter les êtres humains, les djinnats, etc., les malaïkas. On sait qu'à cette époque, il n'y aura même plus les anges qui portent le trône d'Allah. Les malik al-wahid al-qahhar. Et lorsque dans Fatiha on dit malik yawmiddin, lorsqu'on dit que Allah est le maître du jour de la rétribution, le jour de Qiyamah, il n'y aura que Allah. Comme au début de la création. Personne d'autre à part Allah Azza wa Jal. Et là, Allah Ta'ala va ressusciter les gens. Comment Allah Ta'ala va ressusciter? Il est écrit dans les hadiths que Allah Ta'ala va faire pleuvoir une eau qui vient d'un endroit qui s'appelle Bahr al-Hayawan. On pourrait traduire littéralement par la mer de la vie, celle qui donne la vie. Voyez? Et dans les commentaires, il est écrit que cette eau, le abus, cette eau aura l'apparence du sperme de l'homme. Donc la consistance du sperme de l'homme, et cette eau va tomber pendant 40 jours. Et dans les hadiths, il écrit que toute la surface de Mahshar sera recouverte 12 coudées d'auteur de cette eau qui vient de cet endroit appelé Bahr al-Hayawan, et l'eau va pénétrer dans les entrailles de cette terre, va transpercer ce sol et rentrer jusqu'aux os, jusqu'aux ossements des personnes qui sont mortes. Et quels ossements vous allez dire? Dans les hadiths, il est écrit que, on va dire en français, que dans les hadiths rapportés par l'imam muslim, que dans le corps de l'être humain, il y a un os que la terre ne ronge pas. Et cet os s'appelle Ashb al-Zanabi, rapporté par l'imam muslim. Certains disent que c'est le coccyx, d'autres disent que c'est le bassin. Donc c'est un os que la terre ne ronge pas. Ceux qui regardent pour les scientifiques à la télé, vous avez peut-être vu, moi je ne regarde pas, que ben, peut-être que quand ils étaient aliments pour faire les autopsies, etc., ben, ça, ce morceau d'os, ça restera. Donc cette eau va pénétrer ce sol spécial du Mahshar jusqu'à toucher ces ossements de tous les êtres humains qui existent. Ensuite, Ibn al-Jawzi rahimahullah explique comment Allah Ta'ala va rassembler les corps. Et dit que les os, la chair, les cheveux, Toutes les parties du corps des êtres humains vont se rassembler autour de des os, autour de l'ossement de chaque personne. C'est-à-dire, chaque personne retrouvera son corps respectif. Mais jusqu'à maintenant, ce sont des corps sans ruh. Ce sont des corps sans âme pour l'instant. Ensuite, Allah Ta'ala va commencer par ressusciter les grands anges, qu'on appelle des archanges, en commençant par Israfil alayhi salam. Et Allah Ta'ala va juste ordonner, comme il est déjà dit le rapport, Allah Ta'ala va juste dire, d'ailleurs, Adamna Israfil, que Israfil soit ressuscité. Et ensuite, Allah Ta'ala va dire, Yuhya Hamalatu Arshi, que les anges qui portent mon trône soient ressuscités. Et alors, ils seront ressuscités. Allah Ta'ala va demander également, va ordonner à Jibril alayhi salam et à Mikaïl alayhi salam de retrouver la vie, comme le rapport d'Ibn Kathir, rahimahullah. Et ensuite, Allah Ta'ala va dire à Israfil, يا إسرافيل التقم الصور واسجر عبادي لفصل القضاء. Du coup, Israfil, maintenant prend ce qu'on appelle Absour, qu'on traduit malheureusement par trompette. C'est pas une trompette, c'est une corde qui est plus grande que ce dunya. Allah Ta'ala va dire à Israfil de se saisir de cet instrument et de souffler l'appel pour la résurrection. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La magie de la création d'Allah, comme Allah Ta'ala nous a créé à partir de rien, Allah Ta'ala redonne vie à partir de quelques ossements, on va aller un peu plus vite. Allah Ta'ala va appeler l'âme de chaque être humain. Et l'âme des mu'minis, l'âme des musulmans, sera illuminée comme des nours. Et l'âme des personnes qui n'avaient pas l'iman, ce sera zulma, ce sera de l'obscurité. Et Allah Ta'ala va prendre toutes ces âmes, Allah Ta'ala va les mettre dans la trompe, dans la corne de Israfil alayhi salam. Et Allah Ta'ala va ordonner Israfil de souffler, comme Allah dit en Coran, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ الْقَرِيبِ. Et Allah dit en Coran, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera une deuxième fois. C'est-à-dire, Israfil va souffler une deuxième fois. Donc, pour la résurrection. Et là, les gens vont se mettre debout. Et le terme, la simplicité des termes du Coran nous montre le sentiment de comment on sera à garde. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ. Les gens seront debout. يَنْظُرُونَ. Debout et ils regardent. Ils regardent sans rien comprendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ensuite, Israfil va faire ce i'lan. Maintenant, réveillez-vous, relevez-vous. لِتَقُمْنَا إِلَى الْعَرْضِ عَلَى الْمَلِكِ الدَّيَّانِ لِيُجَازِيكُنَّا بِأَعْمَالِكُنْ. Ainsi que maintenant, réveillez-vous et préparez-vous à vous présenter auprès du Seigneur des mondes. Subhanallah. Pour que votre Seigneur vous juge pour chaque action. لِيُجَازِيكُنَّا بِأَعْمَالِكُنْ. Afin que votre Rabb vous juge pour chacune de vos actions. Et lorsqu'il souffle de cette trompe, les âmes sortent. Dans les hadiths, c'est écrit qu'à-an-nahl, ces âmes sortent comme un essaim d'abeilles, comme les abeilles sortent d'une ruche, les âmes sortent tout en même temps du sourd, de la corne de l'Israfil alayhi salam, et chaque âme retourne dans son corps respectif. Et là encore, l'âme du musulman, illuminée par le nom de Iman, et celui qui n'a pas Iman, ce sera que obscurité. Et Allah Ta'ala va dire, comme Ibn Kathir le rapporte, « وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَيَرْجِعُنَّ كُلَّ رُوحٍ إِلَى جَسَدِي » par ma puissance, par mon izzat, que chaque ruh maintenant retourne vers son corps. Et là, les âmes, les ruh vont pénétrer le corps. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les détails comme aucun prophète n'a donné aux membres de sa communauté? C'est-à-dire que les ruh, les âmes vont entrer par ce qu'on appelle al-khayabin. Al-khayabin, si on regarde la traduction, c'est le cartilage du nez. Quand tu as du nez, l'âme va rentrer dans le corps par le nez et tamshi fil ajsab, le hadith dit mashyus. C'est-à-dire comme un poison qui pénètre doucement dans les artères, dans les veines, l'âme va rentrer doucement, doucement à travers toutes les veines, à travers toutes les artères, jusqu'à ce que la personne soit maintenant consciente. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Inshiraqul ard. La terre, les corps sont encore enfouis sous la terre. Maintenant, la terre va se fendre. À quel niveau? Au niveau de la tête de chaque personne qui est sous terre. La terre va se fendre au niveau de la tête. Et là, ils vont se mettre debout sur leurs jambes. Et là, ils regardent qu'est-ce qui se passe. Et ceux qui sont ressuscités en premier, ils entendent toujours le i'lan de Israfil alayhi salam qui dit « Préparez-vous à vous présenter auprès du tribunal d'Allah. » Et là, les gens écoutent, ils ne savent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. De la suite du ayat, hein. لا ترى فيها عوجا ولا أمدا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Ce ayat, c'est puissant. Ce ayat, regardez la traduction. lisez le tafsir. C'est des ayats forts. Quelqu'un qui comprend le sens de ce ayat ne peut plus faire de péché. Il dit que lorsque Israfil va donner son i'lan, les gens vont se mettre debout. Les gens n'auront aucune autre alternative que de suivre le i'lan, la voix d'Israfil. Et fala tasma'u illa hamsa. Personne ne parle. Personne ne prononce un son. La seule chose qu'on entend, c'est al-hams. Illa Hamza, Ibn Abbas, il explique que Hamza c'est quoi? C'est Waqful Aqdam. La seule chose qui sera audible, qu'on entendra, ce sera le bruit des pas des gens qui suivent la voie de l'Israfil pour se préparer pour la résurrection. Alors mes chers frères, maintenant on se demande, à ce moment précis, où seront les personnes qui n'avaient pas iman en Allah? Où seront les personnes qui ne donnaient aucune importance à l'accomplissement des cinq salats? Où seront les personnes qui se consacraient essentiellement à leur but du dunya sans donner à leurs parents les droits qui lui revenaient? Où sont les personnes qui n'ont pas donné leurs droits à leur épouse, leurs droits à leur famille, qui n'ont pas respecté les recommandations d'Allah Azzawajal? Où sont ces personnes qui, à notre époque, dans notre communauté chez les musulmans, ils viennent nous dire à nous, ulama, dit que vous êtes dépassés. Votre discours n'est plus d'actualité. Il faut vous réactualiser. Revoyez les règles de la religion. Cette religion n'est plus adaptée à notre contexte. Nous vivons dans un pays comme ça, comme ça. Il y a la pratique. On ne peut demander à quelqu'un de faire ses cinq prières. Il n'y a plus d'intérêt à enseigner aux enfants les sourates, à enseigner aux enfants la philosophie de la religion. Mes chers frères, ces personnes qui ont de beaux discours, qui essaient de nous faire comprendre que le monde a évolué et que la religion a évolué, mais ce genre de discours, où seront-ils le jour où ils n'auront qu'à suivre Israfil alayhi salam pour se présenter au tribunal d'Allah? Et c'est là que les regrets vont commencer. Chaque personne qui a eu des manquements dans ses amal, dans ses paroles, dans son akhlaq, c'est là qu'on va comprendre que les difficultés ne font que commencer, qu'Allah nous préserve. Et la première personne, on accélère, qui va être ressuscité, ce sera parmi les êtres humains, de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyamah wa awwalu man tanshaqu anhu al-qabr wa awwalu shafi'a rafuti fa muslim. Le prophète dit que je suis le plus grand, le meilleur des fils de Adam alayhi salam. Je suis la première personne qui sera ressuscitée, la première personne qui intercédera. Et Imam Abu Layd as-Samarqandi radiallahu anhu explique de son kitab que lorsque Allah aura ressuscité Jibril, Mikaël et Israfil, ils vont descendre de la tombe Mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réveiller la prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour venir lui dire, ah Jibril, ma hadaniya, oh Jibril, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, Jibril va dire au prophète d'Allah, hada yawm al-qiyama, hada yawm al-haqqa, hada yawm al-ari'a. Il explique au prophète d'Allah en trois termes différents que ça, c'est maintenant a lieu la résurrection. Et qu'est-ce que notre prophète dit immédiatement? Ya Jibril, ma fa'al Allah bi ummati. Oh Jibril, ya Allah, qu'est-ce que Allah Ta'ala a fait pour ma ummat? Est-ce qu'Allah Ta'ala a déjà pris une décision pour ma ummat? Et là, Jibril va dire, Abshir, fa innaka awwal man tanshaqu al-ajr. Oh Muhammad, je t'annonce la bonne nouvelle que tu es le premier des êtres humains à te ressusciter. Aujourd'hui, c'est toi le premier à sortir de la terre. N'aie pas de crainte pour ta communauté, rien n'a encore commencé. Regardez la hablu muhabbah, l'amour que notre prophète a pour nous. Et le prophète, il explique que lorsqu'il va se réveiller, كَأَنِّي أَرَانِي أَنْفُضُ رَفِّي مِنَ التُّرَابِ فَأَلْتَفِتُوا فَلَا أَرَى أَحَدًا. Le prophète explique que je me réveille, je me lève et j'enlève. Regardez comment les détails des hadiths sont réalistes, rapportés par les musulmans. Je secoue la terre de ma tête et je regarde à ma droite et à ma gauche et je me rends compte qu'il n'y a personne. Personne n'a été encore ressuscité. Et puis, qui sera ressuscité après le prophète alayhi salatu wassalam? Les hadiths disent qu'ensuite, Allah Ta'ala ressuscitera Abu Bakr, ensuite Umar, radiallahu anhuma. Et là, le prophète dit, ça c'est des termes magnifiques. ثم أذهب إلى أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة أهل مكة فيحشرون معي. Et ensuite j'irai vers Ahl al-Baqi', c'est-à-dire les gens qui ont été entourés, enterrés à Madina Munawwara, Allah maj'alna minhum. Et là ils vont être ressuscités, ils vont être auprès du Prophète sallam. Et ensuite on va dire, ensuite j'attends les Ahl al-Makka, la population de Makka, ceux qui étaient donc enterrés au Ma'ala, ces gens de Makka vont se ressusciter eux aussi et ils seront avec le prophète alayhi salatu wassalam. Je vous le dis, les gens les plus heureux, ce sont eux. La personne qui passait à Amal a mérité de mourir à Makkah, a mérité de mourir à Madina. C'est ça l'homme le plus heureux, qui est ressuscité auprès de la prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous accorde cette chance. Alors maintenant, les gens se réveillent, ils se lèvent de leur tombe. « Innakum mahshuruna hufatan, uratan, ghurla » comme Badafna Awwa la Khadr ibn Nu'ib à Ibn Abbas, que vous serez ressuscité sans vêtements et sans chaussures, et les hommes ne seront pas circoncis en ce jour. On ne va pas rentrer dans tous les détails.